Alors, j'aimerais savoir, Bernard de Montréal, lorsqu'on va aborder le phénomène de la sexualité, peut-être de vous demander de faire une différence entre le mot homme et le mot humain, pour qu'on se situe quand on dit homme, il s'agit de l'homme mâle et de la femme femelle, et que l'humain comprend les deux. Qu'est-ce qui, dans le fond, est dans la nature de l'humain? Est-ce la bisexualité, l'androgyna, ou cette division? Et si c'est cette division, qu'est-ce que ça signifie?
La nature de l'homme est universelle. Ce qui permet à l'être matériel d'être constitué en une partie femelle et une partie mâle relève des lois de la polarité. Les lois de la polarité sont les lois universelles, ce sont des lois qui permettent dans le cosmos que des êtres qui sont sujets aux lois matérielles de s'interpénétrer. En l'interpénétration, c'est partie de l'exploitation dans le domaine matériel du pouvoir de l'énergie négative et de l'énergie positive. Alors, l'homme représente, sur le plan matériel, l'homme, le mâle, représente l'énergie positive, la femme représente l'énergie négative, et la contradistinction que l'on fait sur le plan psychologique est une contradistinction qui est simplement d'ordre sensoriel. Sur le plan de l'esprit, la polarité n'existe pas. Sur le plan de l'esprit, sur le plan de lumière, la polarité n'existe pas parce que dans la lumière, la constatation infinie de l'énergie de l'esprit est toujours parfaite. C'est-à-dire que l'esprit, dans sa manifestation, sur un plan ou sur un autre, en dehors des sphères de la création, est absolu. Lorsque l'esprit se manifeste sur les plans inférieurs de la création et qu'il transforme les formes éternelles de sa conscience dans des formes évolutives, à ce moment-là, il peut se servir de la polarité, il peut se servir de l'aspect mâle ou de l'aspect femelle, afin de recomposer la forme à l'infinité. S'il a été donné à l'homme, quand je parle de l'homme universellement parlant, s'il a été donné à l'homme d'être constitué en tant que partie mâle et partie femelle, c'est pour permettre sur la Terre, sur le plan matériel, qu'il y eut une évolution animale. Alors, là où il y a évolution animale, c'est-à-dire que là où il y a évolution sans concours direct de l'esprit au niveau de l'intelligence, il devint essentiel que l'homme vécût l'expérience de l'esprit à travers une configuration dualiste, à travers une situation polarisée, afin que les aspects inférieurs soient élevés par les aspects supérieurs. Les aspects inférieurs étant les aspects négatifs, par les aspects supérieurs, pour que les aspects éventuellement puissent être raccordés dans l'esprit lorsque l'homme ne sera plus constitué sur le plan matériel en tant que forme physique, mais plutôt forme éthérielle. Lorsque l'homme sera éthériel, lorsque l'homme sera rendu au niveau de son évolution, au stade de l'homme-esprit, à ce moment-là, il pourra laisser de côté sa forme matérielle et reconstituer une autre forme, créer une autre forme qui sera d'un autre domaine, mais qui n'emploiera plus la polarité pour exprimer à l'infini les formes nécessaires à l'évolution. Il créera instantanément les systèmes de vie dont il aura besoin, et ces systèmes de vie seront d'un autre ordre, mais ne seront plus humains. Nous tomberons à ce moment-là dans l'âge du cloning.
La mode unisexe présentement, est-ce que c'est pas finalement un retour vers l'androgyna, vers l'unité dans les deux sexes?
La mode unisexe aujourd'hui relève du raffinement psychologique des sexes. Autrement dit, les sexes, d'une façon très très inconsciente, parce que l'homme est un être encore très inconscient, il ne connaît pas les lois universelles, L'homme et la femme aujourd'hui sont en train de se réunir au niveau de l'esprit, mais en passant par une expérience psychologique que nous appelons l'unisexe. Et cette expérience psychologique, qui est d'ordre social et historique, leur permet de petit à petit, d'une façon subliminale, de détruire les barrières, les obstacles qui ont créé dans le passé une sorte de dualité entre les sexes, entre le mâle et la femelle, et qui ont empêché la femme d'évoluer. Donc aujourd'hui, la femme peut évoluer plus et l'homme peut s'assagir vis-à-vis son rôle, vis-à-vis le rôle qu'il a envers la femme, et automatiquement, la psychologie de l'unisexe, si nous la regardons d'un point de vue cosmique, non pas simplement d'un point de vue social ou économique ou historique, devient une des grandes poussées dans le monde du phénomène d'égalisation entre les matières mâles et les matières femelles pour préparer l'homme petit à petit à se désintoxiquer, à se libérer des formes qui ont servi à l'ancienne évolution et à le préparer éventuellement à entrer en contact avec d'autres civilisations qui, elles, sont unisexes dans beaucoup de leurs aspects.
On entend beaucoup parler en Orient de la montée de la Kundalini, l'utilisation de l'énergie des différents chakras, et on dit que chakra signifie en français roue, et que c'est par le mouvement des roues qu'on produit de l'énergie électrique dans les dynamos, dans les centrales électriques. Alors, cette montée de la Kundalini, qui est représentée bien souvent comme deux serpents entrelacés, comme dans le caducée d'Hermès, ces deux serpents qui préfigurent peut-être aussi le fameux serpent tentateur au paradis originel, la femme qui se combat, la femme qui lui pile sur la tête, mais le serpent se venge en retour, étant donné que la femme qui aura dominé le Kundalini de l'être humain au cours de l'existence de l'humanité, ce serpent se venge en retour et lui mord le talon, comme on dit dans la Bible. Alors, toute cette histoire à la fois orientale et occidentale nous ramène à un élément de base, c'est qu'il y a une énergie à aller chercher à la base. De quelle énergie s'agit-il?
Il y a une énergie cosmique dans la colonne de l'homme. Dans la colonne vertébrale de l'homme, il y a des centres d'énergie. Ces centres d'énergie sont les centres récepteurs de cette énergie cosmique.
De l'humain?
De l'homme et de la femme? De l'homme et de la femme, les deux. Et le Kundalini, il faut comprendre une chose, c'est que l'Orient a été une des régions de la Terre qui a été les plus favorisées par ce que nous pouvons appeler l'expérience astrale. Et dans l'expérience astrale, les Orientaux ont découvert la Kundalini, ils ont découvert la nature voilée du corps humain, ils ont découvert la mécanicité énergétique de la colonne vertébrale, et ils ont interprété, selon les lois de l'intelligence astrale, le principe de cette énergie. Donc, ils ont compris que cette énergie était cosmique et que cette énergie fonctionnait en termes de roue qu'elle générait. Mais ce qu'ils ne savaient pas, les Orientaux, c'est que cette énergie ne doit pas être manipulée par l'homme. Si le Kundalini est manipulé par l'homme, il est manipulé par l'ego. S'il est manipulé par l'ego, il est manipulé psychologiquement. S'il est manipulé psychologiquement, il y a de l'émotion dans le mental. Et s'il y a de l'émotion dans le mental, il y a du désir, c'est-à-dire que l'homme veut parvenir à un certain état d'esprit qui lui permet éventuellement d'avoir un certain pouvoir à quelque niveau que ce soit. Ceci est très dangereux parce que l'homme aujourd'hui n'est pas dans l'intelligence. Il est simplement dans l'intellect. Et si un homme n'est pas dans l'intelligence, comment peut-il connaître, comprendre les lois cosmiques? Pour comprendre les lois cosmiques, il faut être dans l'intelligence, c'est-à-dire qu'il faut avoir un rapport vibratoire de synchronisation entre ses énergies et son mental. Donc, il faut que l'homme ait une conscience mentale supérieure qui reçoit l'information de cette énergie et qui lui permette de comprendre le rapport entre l'énergie et ses centres, ses chakras. Mais les Orientaux et aussi les Occidentaux aujourd'hui, de plus en plus, se sont intéressés au Kundalini et c'est très dangereux parce que ils peuvent très facilement libérer des énergies et astraliser leur centre. Donc, leur centre tellement affecté par des énergies qui proviennent d'univers parallèles et qui sont contrôlées par des êtres qui sont anti-hommes, qu'éventuellement ces êtres peuvent atteindre l'état de folie. Donc, travailler avec le Kundalini à partir de l'ego, c'est très dangereux. Et les maîtres, les moindres mensages le savent. Pour que l'homme travaille avec les forces qui sont en lui. Il faut qu'il soit lui-même en force, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit lui-même en intelligence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en harmonie avec l'énergie qui passe en lui. S'il n'est pas en harmonie avec l'énergie qui passe en lui, il ne peut pas comprendre cette énergie, donc il l'intellectualisera, il la spiritualisera, il fera de la philosophie sur elle et automatiquement il devra en payer le prix parce que l'énergie qui passe dans l'homme est une énergie qui est indifférenciée. Et comme elle est indifférenciée, elle devient différenciée seulement dans son utilisation. Donc, c'est seulement lorsque l'homme utilise cette énergie qu'elle devient différenciée. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il est capable de bien l'utiliser parce que ses centres sont ajustés à elle. Mais s'il travaille au niveau de l'ego et qu'il se sert de cette énergie sans être en harmonie vibratoire avec elle, en passant simplement par une constatation astrale de sa présence, donc, à ce moment-là, il peut se mettre en danger. Et c'est là que nous avons des cas dans l'humanité, dans l'Orient comme dans l'Occident, de personnes qui atteignent des niveaux de folie parce qu'ils déclenchent en eux des forces qu'ils ne sont plus capables de contrôler. Il faut, comme disait le grand Aurobindo, il faut que l'énergie descende d'en haut, il faut que l'ouverture des chakras se fasse d'en haut, c'est-à-dire qu'il faut que l'ouverture des centres cosmiques de l'homme se fasse par la partie cosmique de l'homme, et la partie cosmique de l'homme, c'est son double. Et ce double, il doit être créé, il doit être développé, il doit être perfectionné, parce que tous les hommes ont un double, mais le double qu'ils ont est un double qui est à la fois vital et astral. Ce n'est pas un double qui est le produit de la concentration d'énergie astrale et mentale sur un plan supérieur. Donc, tant que l'homme n'a pas construit le double, il ne peut pas être en harmonie avec cette énergie indifférenciée, donc il ne peut pas comprendre parfaitement sa relation avec elle, donc il se met en danger s'il travaille avec cette énergie.
Et de là la protection qu'il trouve dans les morales, les religions, les sociétés avec certains préjugés ou certaines techniques ou certaines réalités qu'on admet dans un cas et dans une autre société, ce sera d'autres réalités qui seront admises.
Chaque société interprétera la réalité psychologique des fonctions énergétiques de l'homme selon sa doctrine, selon sa philosophie, selon son illusion.
Alors, si on partait de zéro, ou peut-être même moins neuf, la naissance d'un être humain sur la Terre, comment descend cette énergie dans la cellule qui va devenir un être humain?
Cette énergie, elle est présente dans la cellule au moment où il y a interaction entre le mental de l'homme ou le corps astral de l'homme. Autrement dit, si nous prenons l'homme comme étant un aspect très perfectionné de la nature animale, aussitôt qu'il y a contact entre le mental humain ou l'astral humain ou au niveau de la plante, l'éthérique plantaire, à ce moment-là, il y a dans les plans supérieurs une résonance qui s'établit et l'énergie commence à descendre et elle descend au niveau le plus bas de la constitution matérielle de la forme, et ceci se trouve dans notre organisation sur le plan génétique. Et à ce moment-là, l'énergie se fait par résonance, elle s'établit par résonance, et comme elle est résonante, l'énergie, elle n'a pas besoin d'être amenée vers la matière par le corps de désir. Elle peut être amenée dans la matière simplement par interaction biologique, interaction physique, et même dans certains cas par interaction où l'homme ou la femme n'ont eu aucun contact mental ou astral. Il y a des cas où des êtres humains ou des femmes ont donné naissance à des enfants parce qu'il y a eu résonance dans leur énergie et ces hommes ou ces femmes n'ont jamais eu de contact sexuel.
On compare souvent l'ovule porté par la femme comme une planète, le spermatozoïde de l'homme comme un cosmonaute qui arrive et insémine la planète, agit sur la planète et en crée une civilisation nouvelle. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'ovule, sur tous les plans cosmiques et tout le reste, et aussi pour le spermatozoïde?
L'ovule, sur le plan cosmique, représente une spirale d'énergie. C'est une spirale qui est constamment en mouvement, qui est constamment en évolution. L'ovule ne cesse jamais de pulser. Il est toujours actif. Le sperme d'or, il devient actif lorsque l'ovule a été mis en résonance. Les gens pensent que c'est le sperme qui donne la vie à l'ovule. Ce n'est pas le cas.
C'est l'ovule qui vibre et qui, par sa vibration, par sa résonance, attire le sperme à lui. Et c'est ça qui fait le choix. C'est la femme qui attire à elle sur le plan biologique, sur le plan micro, les aspects de l'homme qui sont fécondants. Ce n'est pas l'homme. On pense sur la terre que c'est l'homme qui féconde la femme. Ce n'est pas le cas. C'est la femme qui appelle l'homme à elle. Et cette constatation sera réalisée un jour lorsque, au niveau de la science, on aura pris conscience de la résonance de l'ovule et on verra que dans une matière quelconque, dans un médium quelconque, lorsque l'ovule lorsque l'ovule frémit, le sperme est attiré à lui. Si l'ovule ne frémit pas, le sperme ne peut pas venir à lui. Et regardez dans le cas des animaux. Vous verrez dans le cas des animaux que si la femme ou la femelle, pour ainsi dire, rejette le mâle, il ne se passe rien. Sur le plan biologique, micro, c'est la même chose. Si l'ovule ne frémit pas, le sperme ne peut rien faire. C'est une illusion psychologique de la relation du positif avec le négatif qui fait que les gens, ou la science même aujourd'hui, croient que c'est le sperme qui donne ou qui rend possible la vie dans l'ovule. La vie, elle est déjà dans l'ovule, elle est toujours dans l'ovule. Le sperme, lui, dort comme l'ours en hiver. Et ça, c'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle la femme est obligée de vivre des périodes menstruelles et vivre pendant un grand nombre d'années cette activité physico-chimique et éthérique dans son corps. Tandis que l'homme, lui, ne vit pas ça. La femme, elle est toujours en vie. Il y a beaucoup plus de vie dans la femme que dans l'homme.
Pourquoi les cycles?
Les cycles menstruels? Les cycles menstruels sont des cycles qui relèvent de la formation dans la femme d'une génétique éthérique qui est directement liée à la lune. Il y a une relation entre la lune et la femme. Et la lune, elle, représente en fonction de la Terre une activité cosmique qui est très importante parce que c'est la Lune qui attire l'énergie du Soleil. Mais c'est l'attraction de l'énergie solaire par la Lune n'est pas reconnue aujourd'hui, elle n'est même pas connue dans les doctrines ésotériques ou occultes. Parce que pour connaître les activités de la Lune, il faut pouvoir aller dans la conscience lunaire, il faut pouvoir étudier l'esprit de la Lune et parler avec l'esprit de la Lune. Et lorsque l'homme parle avec l'esprit de la Lune, il comprend les lois de la Lune, et à ce moment-là, s'il est suffisamment fort, l'esprit de la Lune expliquera à l'homme les lois du Soleil. Et c'est par la Lune que l'homme comprendra les lois du Soleil, autrement dit, c'est par la femme que viendra sur la Terre la conscience cosmique.
Et cette conscience cosmique vient du Soleil?
La conscience cosmique est le résultat du passage de l'énergie du Soleil à travers la femme sur la Terre. Parce que ce qui est le problème de l'homme aujourd'hui, et quand je parle de l'homme, je parle de l'homme ésotérique, mais je ne parle pas de l'homme qui... Je parle de l'homme occulte, je parle de l'homme qui est très près des mystères de la vie sur les autres plans. Ce qui est le problème de cet homme, c'est que l'homme aujourd'hui fonctionne encore par symbologie. Et la symbologie, c'est très dangereux en ce qui concerne l'évolution future parce que on ne peut pas atteindre la connaissance en se servant des symboles. Parce que les symboles sont déjà des formes qui ont été instruites dans le cerveau de l'homme pour l'empêcher d'avoir accès à la connaissance. Si on veut empêcher un homme d'avoir accès à la connaissance, on lui donne de la symbologie. Parce que la symbologie, elle est toujours ajustée à son caractère émotionnel ou à son caractère mental. Donc, la symbologie, elle est toujours fixée dans le caractère d'une nation. La symbologie de l'oriental, la symbologie de l'occidental, la symbologie de l'indien, la symbologie de l'esquimau, chaque peuple a sa propre symbologie et cette symbologie éventuellement devient une sorte de ciment à l'intérieur de laquelle l'intelligence de la race piétine et tant que l'homme n'est pas capable de sortir, de tuer, de détruire les formes de la symbologie, il ne peut pas rentrer dans l'énergie de l'intelligence. Donc, il ne peut pas comprendre les rapports énergétiques entre les différents plans d'évolution. Entre le sperme et l'ovule, entre la lune et le soleil, entre la terre et le soleil et la lune, et ainsi de suite. L'homme ne peut pas comprendre les lois de l'énergie. Et il faut que l'homme comprenne les lois de l'énergie parce que c'est l'énergie qui est à la base de tout. C'est l'énergie qui prend dans l'homme la quantité essentielle dont il a de besoin pour transmuter son oxygène. C'est l'énergie. L'oxygène, ce n'est pas une énergie. L'hydrogène, ce n'est pas une énergie. C'est une composante de l'énergie. C'est une physicalité de l'énergie, mais qui n'a aucun rapport avec l'énergie elle-même. C'est pour ça que, d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes obligés, sur la Terre, de créer des systèmes énergétiques à partir de particules qui sont déjà mortes d'énergie. C'est pour ça que, aujourd'hui, nous sommes obligés constamment de créer des carburants qui brûlent et de recréer des carburants qui brûlent au lieu de se servir d'une énergie qui est sans fin, mais une énergie qui n'est pas fondée sur les stocks infinitésimales de l'atome. L'homme doit aller plus loin, mais pour que l'homme aille plus loin, il faut qu'il ait l'intelligence de l'infinité. Il faut qu'il comprenne les lois de l'énergie. Autrement dit, il faut que son mental soit fusionné avec l'énergie. Et à ce moment-là, il peut commencer à donner, à ouvrir pour l'humanité la boîte de Pandore. Il peut, à ce moment-là, ouvrir pour l'humanité les secrets extraordinaires de la science cosmique.
Vous utilisez encore très souvent le mot « homme » qui, des fois, pourrait être mieux remplacé par le mot « humain ».
Quand j'emploie le mot homme, je l'emploie dans un terme générique, mais je peux employer le terme humain si ça crée une confusion. Pour moi, le mot homme, quand je parle de l'homme universellement parlant. Sinon, je parle du mâle, de la femelle, ou en général, je suis suffisamment précis dans ce que je dis.
Bon, alors maintenant, c'est que la langue est peut-être pas précise, et vous avez déjà dit que les mots, il faut faire attention.
Oui, c'est-à-dire que la langue est précise, c'est la façon dont nous employons la langue qui nous empêche de dire exactement ce que nous voulons dire. Mais comme je suis dans un champ d'énergie qui pulse à une très haute fréquence, j'ai tellement de choses à dire que j'essaie de prendre le chemin le plus court. Donc, c'est pourquoi souvent je vais employer un terme lorsqu'en fait je pourrais en emprunter un autre. Mais avec le temps, les gens me connaissent et me comprennent, et donc à ce moment-là, on peut passer par-dessus et ne pas perdre trop d'énergie avec les mots.
Si on en revient encore aux spermatozoïdes et à l'ovule, les spermatozoïdes doivent se combattre pour atteindre l'ovule, un peu comme les mâles chez les animaux doivent faire la guerre des mâles, la confrontation pour que le plus fort, le plus résistant ait droit aux femelles. Est-ce que c'est la même chose sur le plan cosmique aussi, que tous ceux qui veulent atteindre une planète sont obligés de se confronter pour atteindre la planète qui, elle, est prête, comme vous disiez tantôt?
Le concept du combat, c'est un concept très intéressant. Il y a combat dans le cosmos là où il y a émotivité. Là où il n'y a pas d'émotivité, il n'y a pas combat, il y a simplement réagencement ou activité maximalisée pour la conquête du territoire. Sur le plan humain, il y a émotivité, donc il y a combat. Sur le plan cosmique, il n'y a pas combat, il y a lutte. Le mot lutte sur le plan cosmique n'implique pas l'implication de l'émotion. Le terme combat implique l'activité émotionnelle. Sur le plan cosmique, il y a lutte parce que, sur le plan cosmique, à cause des différents plans d'évolution, les êtres qui sont les plus évolués sont obligés constamment de remettre en place les activités ou de corriger les activités d'êtres inférieurs. Donc, il y a lutte parce que il y a plus d'êtres inférieurs dans le cosmos que d'êtres supérieurs. Donc, il y a toujours le phénomène de la relation entre l'apex de la pyramide et la base. Et la base essaie, à cause de son nombre et de sa grande numérologie, elle essaie de prendre plus de place dans le cosmos qu'elle ne devrait, mais elle doit prendre beaucoup de place parce que, justement, il y a un grand nombre d'activités ou d'entités en activité. C'est pour ça qu'il y a toujours le phénomène de lutte. Le seul endroit dans le cosmos où la lutte n'existe pas, c'est dans le centre même de l'univers, qu'on peut appeler l'île paradisiaque. C'est un terme qui fait partie des connaissances ésotériques qui sont données à l'homme aujourd'hui. Et il y a un autre terme qu'on peut donner à l'île paradisiaque, c'est le centre parfait du retour éternel de l'involution. Alors à ce moment-là, dans ce centre-là, le combat n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Et c'est à partir de cette étape de l'évolution, c'est à partir de ce lieu dans le temps et dans l'espace intemporel que se situe ce que nous appelons les Alephs, le Dieu, les dieux, parce qu'il n'y a pas seulement qu'un Dieu, il y en a plusieurs. Donc, la lutte à ce moment-là n'existe pas. Mais c'est à partir de ce plan-là, si vous voulez, que commence dans le cosmos la lutte, qui devient plus loin le combat, et qui devient plus bas dans l'échelle de l'évolution, l'agencement des différentes forces biologiques pour la conquête du territoire.
Normalement, pour que le spermatozoïde atteigne l'ovule, il faut qu'il y ait eu une forme d'orgasme entre les deux partenaires. Qu'est-ce que signifie cet orgasme sur le plan physique, physiologique et cosmique?
Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait orgasme entre les deux partenaires pour qu'il y ait connexion. L'orgasme entre les deux partenaires est simplement un aspect de la conscience cosmique sur le plan sexuel pour permettre aux êtres humains d'avoir le plaisir vibratoire de l'énergie afin de réaliser par leur mémoire que ça vaut la peine d'être fait encore pour qu'il y ait, au cours de l'évolution, une procréation constante et continue.
Donc l'ancienne technique religieuse qui disait « faites des petits, mais moins vous jouissez, mieux c'est ».
Non, les dictées anciennes des clercs ou de ces êtres religieux faisaient partie de la psychologie religieuse de ces temps-là, tout simplement.
Aujourd'hui, on est peut-être dans l'excès contraire, on dit « trouvez votre jouissance par quelque moyen que ce soit, c'est l'essentiel ». Alors, où situer l'équilibre entre les deux, justement? Est-ce que la jouissance ou l'orgasme est une partie importante? Et je référerai à des textes qui nous rappellent la vie des saints, qui, eux, ne nous parlent pas d'orgasme, ça serait péché. Ils nous parlent de l'état de félicité de certaines saintes et de certains saints qui sentent en eux la présence de Jésus qui les pénètre. Et cet état de félicité qui ressemble très étrangement à l'orgasme. Alors, qu'est-ce que c'est qui se passe physiologiquement au moment de l'orgasme?
Au moment de l'orgasme, il y a une concentration d'énergie cosmique sur un plan inférieur de l'homme. Autrement dit, vivre l'orgasme dans une instantanéité, c'est équivaut à vivre sur un plan plus vaste l'énergie cosmique. Autrement dit, lorsque l'homme vit l'énergie cosmique dans le mental, lorsque l'homme vit l'énergie cosmique dans le corps astral, lorsque l'homme vit l'énergie cosmique dans un centre, c'est toujours la même énergie. Sur le plan sexuel, nous appelons ça l'orgasme. Autrement dit, l'orgasme, c'est la connexion instantanée, très courte, de ce centre d'énergie avec cette énergie qu'on appelle l'énergie cosmique. Et c'est le plus près dans l'expérience de l'homme qui lui permet de vivre l'infinité de l'énergie sans être affecté par son ego. C'est pourquoi d'ailleurs c'est si puissant, c'est pourquoi c'est si plaisant, et ainsi de suite.
Est-ce que ça peut être provoqué par le mental de l'être humain, comme je pense aux saints qui sont seuls, sans contact avec un partenaire, et qui atteignent cet état de félicité, de jouissance intense?
L'état de félicité du saint se situe au niveau du corps astral, donc sa félicité, c'est un autre ordre de félicité, qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus grande, beaucoup plus stable, beaucoup plus près du mental, donc beaucoup plus reconnaissante sur le plan de la conscience. Donc beaucoup plus élevé, et il y a à l'intérieur de cette publicité des expériences phénoménales qui relèvent du contact entre des entités dans l'astral et l'être humain, et ainsi de suite. Donc ce sont des expériences qui sont d'ordre différent, mais l'énergie est toujours la même. Mais il ne faut pas prendre mes mots et dire que j'ai dit que être dans un état de sainteté, c'est la même chose que d'être dans un état d'orgasme.
Est-ce qu'on peut avoir un état de forme de contact qui s'appellerait l'orgasme sur le plan physique ou de félicité sur le plan astral, mais cet état semblable, mais sur le plan mental pur?
Oui, sur le plan mental, ce même orgasme existe, si vous voulez employer les termes en parenthèse, mais c'est un autre ordre. L'énergie vécue dans le mental, moi peut-être que je le vis, ça, cet orgasme dans le mental, je déteste cette comparaison. Mais Mais le plan mental est beaucoup plus vaste encore que le plan astral, c'est un plan qui est continu, qui a beaucoup plus de continuité.
Lors de votre fusion, l'énergie a passé un peu comme lorsque un homme est en fusion avec une femme et il y a une énergie qui passe et ça procrée.
Oui, mais comme je dis, je dois faire attention parce que je déteste les analogies. Je sais très bien que la manifestation de l'énergie cosmique sur le plan sexuel est la plus courte. Sur le plan astral, elle est plus longue. Sur le plan mental, elle est très longue, permanente et continue. Donc, un homme qui vit l'énergie cosmique sur le plan sexuel, il la vit d'une façon très courte, sur le plan astral plus longue, et sur le plan mental, elle est continue et permanente. D'ailleurs, c'est ça la fusion. La fusion, c'est un état, entre parenthèses, d'orgasme permanent. Mais c'est pas ce que je veux dire.
Sur le plan physique, atteindre l'orgasme, on en connaît plusieurs techniques. Sur le plan astral, quelles seraient les techniques?
Sur le plan astral, les techniques... D'ailleurs, lorsqu'on parle d'orgasme sur le plan physique, on ne peut pas parler d'orgasme sans parler de l'activité astrale. Parce que l'homme vit sa sexualité beaucoup en fonction de son imagination. Et il y a des hommes qui se donnent des expériences dans le plan astral. Il y a des hommes qui vont dans l'astral et qui préparent dans l'astral leur activité avant de la vivre sur le plan matériel.
Ce qu'on appelle les fantasmes.
Les fantasmes sont un aspect de ceci, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des êtres qui sont capables d'aller dans le monde astral et de préparer tout le scénario de leur activité. Même il y a des êtres qui préfèrent leur activité, vivre leur activité sexuelle dans le plan astral que de la vivre sur le plan matériel. Parce qu'elle est beaucoup plus belle, elle est beaucoup plus grande, les corps sont beaucoup plus harmonieux, les êtres sont beaucoup plus grands, il y a beaucoup plus d'intelligence et il y a beaucoup plus d'harmonie entre les couples. Mais ces êtres-là sont comptés, il y en a très peu.
Alors, quelles seraient les techniques justement pour le vivre sur le plan astral? La méditation, la prière, la contemplation?
Ça dépend de l'orientation psychologique de l'individu, ça dépend avec qui il est en contact sur le plan astral, parce que pour aller sur ces plans-là, il faut être amené là par quelqu'un, il faut avoir un complice, il faut avoir accès à un maître, il faut... être en contact avec quelqu'un qui déjà connaît ces mondes-là. On ne peut pas aller dans ces mondes-là sans invitation. On ne peut pas visiter ces mondes-là sans... parce que c'est très vaste, le monde astral. On peut facilement se perdre. Donc, il faut qu'il y ait connivence, qu'il y ait complice. Si un homme, par exemple, avait dans le passé pratiqué une certaine sexualité très astrale, très sadique, très sadique, très négative, une sexualité très animale, automatiquement, il aurait la chance d'être en contact avec des entités qui travaillent sur ces plans-là et qui pourraient l'amener à vivre et à raffiner sa sexualité pour en développer des avantages humains plus occultes, plus secrets, qui feraient concentrer beaucoup plus d'énergie sexuelle sur la Terre qu'il en est nécessaire.
Évidemment, pour vous, Bernard, qui considérez que l'astral est un monde très, très pollué, vous imaginez peut-être très mal qu'il y a peut-être aussi l'autre technique qui permet d'entrer en relation avec des maîtres de l'astral, mais pas sur le plan sadique, négatif, mais ça peut être aussi sur le plan très positif.
Oui, il y a, naturellement, mais sur les très hauts plans de l'astral, on ne s'occupe pas de la sexualité. Sur les très, très hauts plans de l'astral, on ne s'occupe pas de la sexualité. Sur les plans médians, oui, mais pas sur les très hauts plans de l'astral. Là où les grands maîtres sont dans l'astral, il y a beaucoup d'autres activités essentielles pour eux que d'enseigner à l'homme la sexualité. Ce sont sur les plans médians qu'on s'occupera de la sexualité.
On relie très souvent les gens qui vivent dans l'astral aux artistes. Les gens qui sont des créateurs, artistes, l'imagination, la créativité. Et on sait que très souvent, ces artistes ont des manifestations sur le plan biologique d'une sexualité assez spéciale, aberrante dans toutes sortes de domaines. Comment associer cette créativité positive qui leur vient de l'astral à une sexualité marginale par rapport au fait de procréation, point, c'est tout?
On parle de sexualité marginale. La sexualité marginale, tout est marginal qui ne convient pas socialement à une convention culturelle, à une convention nationale. Le mot marginal n'a pour moi aucune signification particulière. Aussitôt qu'un homme, d'ailleurs tous les hommes qui ont le moindrement marqué le monde ont été marginaux. C'est impossible à un homme qui est suprasensible ou supra quelque chose de ne pas être marginal. Donc, les êtres marginaux sont réellement les êtres qui font évoluer l'humanité. Naturellement, à l'intérieur de la marginalité, il peut y avoir une marginalité décadente, comme il peut y avoir une marginalité créative. Et ceux qui vivent la marginalité décadente font déjà partie de la cadence. Ceux qui vivent la marginalité créative font partie de l'autre aspect. Mais on ne peut pas. Bon, il y a tellement de choses à dire. Une des choses que moi, en tant qu'homme, j'ai réalisé depuis la fusion, c'est que il est absolument impossible, sur le plan cosmique, à un homme de juger un autre homme. Et ceci a été dit auparavant par d'autres initiés. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on arrive à l'homosexualité, et je me servirai de ceci pour expliquer ce que je veux dire. Nous avons dit au début de la soirée que l'esprit est en dehors de la polarité. Donc l'esprit est en dehors du bien et du mal. C'est l'homme qui est prisonnier du bien et du mal. C'est l'homme qui, dans son expérience, qualifie de bien ou de mal selon les coordonnées progressives ou évolutives de sa société, de sa nation, de sa culture, de sa race, qui définit, selon les mœurs de son temps, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Mais si nous regardons les choses du point de vue cosmique, autrement dit, du point de vue du gouvernement invisible, à ce moment-là, tout ce qui se passe dans l'expérience de l'homme, de l'être planétaire qui n'est pas encore cosmique, fait partie de l'expérience dans la matière de l'esprit. Et un jour vient le point, si l'être est suffisamment évolué, où il y a fusion entre l'esprit et la matière. Et lorsqu'il y a fusion entre l'esprit et la matière, le taux vibratoire de l'être change. Donc, à ce moment-là, la qualité mentale, la qualité astrale, la qualité vitale et la qualité physique de l'être changent. Donc, toute dénomination, toute catégorisation de l'action humaine en tant qu'expérience n'est plus soumise aux lois de la pensée humaine, elle est soumise à la dictée télépathique de l'être avec le cosmos. Donc, à ce moment-là, l'être découvre son identité, devient totalement centrique, devient totalement autonome, et il est capable de vivre sa vie selon le besoin de son énergie, tout en respectant la nature de la vie polarisée de la civilisation à l'intérieur de laquelle il vit. Donc, c'est très important dans le cycle qui vient surtout au 21e siècle. Et d'ailleurs, ça nous est imposé de plus en plus, d'une façon inconsciente aujourd'hui. Ça devient très important pour les hommes. Si les hommes de la Terre veulent évoluer, ils devront apprendre à regarder l'expérience de l'autre homme, des autres êtres, et de ne pas les porter en jugement. Et s'ils font ceci, il se produit ceci. Ils sont obligés d'absorber le choc émotionnel dans leur corps astral. Ce choc change la nature de leur corps astral, change leur mental et leur donne une conscience plus grande, c'est-à-dire que ça élargit dans le contexte leur esprit. Et lorsque l'esprit très, très élargi, que la conscience de l'homme devient très vaste, à ce moment-là, l'homme n'est plus prisonnier des petites constatations marginales qu'il fait dans son expérience.
Comment parler à quelqu'un qui, s'il voit un homosexuel, il voudrait y planter son poing entre les deux yeux, quelqu'un qui ne peut pas digérer quelqu'un qui n'est pas pareil comme lui?
C'est parce que c'est une personne qui est myopique, c'est une personne qui est épris d'elle-même, c'est une personne qui se prend pour un autre, c'est une personne qui se prend au sérieux, c'est une personne qui manque totalement de maturité.
Oui, mais quelqu'un qui vous répondrait, oui, mais la sexualité ne sert pas à se faire du fun, ça sert à faire des petits,
bon.
C'est pas des...
OK.
Ça ne fera pas des enfants forts comme on entend souvent.
Bien. Le point dans le traitement très délicat de l'homosexualité, il est ici, à ce stade de notre conversation. L'homme découvrira un jour, lorsqu'il sera en communication télépathique avec les plans, les mondes parallèles, il découvrira que l'expérience humaine sert à l'évolution de l'esprit et non pas à meubler le petit esprit de l'homme. Autrement dit, l'esprit, un être, par exemple, qui est homosexuel, il est dans un corps matériel, il vit une certaine souffrance parce qu'il est marginal, Il vit dans une société qui rejette son activité, son expérience. Et cet être-là, pourquoi souffre-t-il? Parce qu'il n'est pas conscient dans son esprit des lois de son incarnation. S'il était conscient des lois de son incarnation, s'il savait pourquoi il est homosexuel, pourquoi il est né dans telle famille, pourquoi les conditions de son homosexualité, on lui répondrait de l'autre plan pourquoi. Et donc, il serait automatiquement lavé de toute culpabilité sociale ou personnelle vis-à-vis de cette action. Mais, en même temps, il aurait la maturité, c'est-à-dire l'intelligence de son action, de son activité, et il serait suffisamment mûr pour ne pas troubler l'humanité ambiante. Le problème avec beaucoup d'homosexuels, c'est que beaucoup d'homosexuels ont troublé l'humanité ambiante. Et quand on trouble l'humanité ambiante et qu'on fait partie d'une minorité, il est évident qu'on peut s'attendre à des chocs en retour. Et si l'homosexuel ne troublait pas l'humanité ambiante, si, autrement dit, l'homosexuel était un homosexuel normal, comme il y en a d'ailleurs, moi j'en connais des homosexuels qui sont des homosexuels normaux, des gens très bien, et je vous dis que quand je parle de gens très bien, je parle dans toutes les sphères de la société humaine, même dans la politique mondiale. Il y a des êtres homosexuels qui voilent leur activité parce que ils savent, ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas ouvertement, dans l'humanité ambiante qui est extrêmement primitive aujourd'hui sur le plan psychologique, dévoiler leur jeu. Et ces êtres-là ont, dans le monde, une présence très effective. Donc, il y a des homosexuels, alors, nous respectons Michel-Ange. Alors, homosexuel, si c'est Michel-Ange, ça va. Mais si c'est le petit bonhomme à côté de chez nous, ça va plus. Hein? Homosexuel, si c'est un grand bonhomme de l'histoire, ça va. Mais si c'est le bonhomme à côté de chez nous, ça va plus. Donc, il y a chez soi une sorte de présomption, il y a chez soi une sorte d'attitude. Et tant que l'homme aura des attitudes vis-à-vis de l'homosexuel sera obligé de vivre son expérience, et ceci fait partie de son karma, ceci fait partie de sa souffrance. Et s'il a les clés, et s'il connaît, et s'il comprend la relation entre son expérience et son incarnation, et son esprit, et entre éventuellement en contact avec les plans qui peuvent bien lui expliquer sa situation, il ne souffrira plus de son homosexualité, et il sera un homosexuel heureux, il sera un homosexuel normal. Comme il y a des êtres hétérosexuels normaux, il sera un homosexuel normal. Ce n'est pas à l'homme, subjectivement, culturellement, au niveau de ses mœurs, en fonction de ses principes religieux ou de ses principes statutaires, de dire que l'homosexuel, c'est un être qui est anormal. Il n'y a pas d'anormalité dans la nature. Il y a dans la nature des aspects qui relèvent d'une décision qui a été prise sur des plans invisibles avant l'incarnation. Ça, c'est comme le jeune homme qui vient au monde avec une tête d'eau, le jeune homme qui est totalement difforme. Nous, dans la société, nous le considérons comme anormal, mais nous avons précieusement essayé de le protéger. Nous lui donnons un environnement pour l'aider, mais nous ne faisons pas la même chose pour l'homosexuel. Nous n'oserions pas aider l'homosexuel, nous n'oserions pas définir des lois sociales, des lois psychologiques ou des principes quelconques de vie sociale pour ces êtres-là, parce que déjà ces êtres-là ne sont pas anormaux dans un sens physique, mais ils vivent une abnormalité qui n'est pas psychologiquement anormale. C'est-à-dire qu'ils vivent en dehors des lois du biologisme, du déterminisme biologique. Et ceci fait partie de leur karma, ça fait partie de leur expérience. Et si eux peuvent le vivre cette expérience sans être troublés dans l'émotionnel et dans le mental, ils vivront très bien leur expérience, parce que c'est absolument nécessaire, c'est absolument essentiel qu'il y ait dans une civilisation de l'homosexualité. C'est impossible, et d'ailleurs il n'y a jamais eu de civilisation sur la Terre qui n'a pas eu son homosexualité. Les Hindous ont eu leur homosexualité, les Indiens ont eu leur homosexualité, les Grecs, les Romains, toutes les civilisations de la Terre ont eu leur homosexualité. Pourquoi? Parce que l'homosexuel est le lien entre l'homme et la femme. Il est cette présence dans la matière qui permet temporairement, pendant l'évolution, que l'énergie de la femme passe vers l'homme et que l'énergie de l'homme passe par la femme. Ça, c'est sur le plan cosmique. Donc, l'homosexuel a une fonction cosmique sur la Terre, mais lui, en tant qu'individu, il ne la voit pas. Il ne la connaît pas. Donc, comment la souffre-t-il? Il la souffre en relation de son déterminisme biologique qui est confronté à un déterminisme biologique qui est universellement contre lui. Donc, il n'est pas capable de logiquement prendre possession de son expérience. Et tant que l'homosexuel ne prendra pas possession de son expérience, il sera assujetti au jugement d'une société ou d'une ambiance, d'une humanité ambiante, qui, à cause de son nombre, de sa majorité, aura le droit de juger en chef son comportement psychologique.
Là, je pense que ça clôt assez clairement.
Ça vous donne un peu une idée.
Pour l'homosexualité. Maintenant, si tout est normal, que penser de la pédophilie?
La pédophilie?
Les adultes qui s'intéressent à des enfants.
Dans quel sens?
Laisser venir à moi les petits-enfants, c'est-à-dire ceux qui retrouvent ou qui recherchent la présence des enfants pour une initiation sexuelle précoce.
Il y a dans toute expérience, de la maturité ou un manque de maturité. Ça, c'est un point commun. Il y a dans toute expérience un ajustement qui doit être fait au niveau du corps astral. Ce genre d'expérience dont vous parlez n'est pas plus différent que l'autre genre d'expérience, par exemple, où le type va dans un magasin et se sent obligé de voler. Alors, le type qui va dans un magasin, qui est attiré à prendre quelque chose et de le mettre dans sa poche, il est poussé par la même énergie que le bonhomme qui va vers le jeune. Il ne s'agit pas pour nous de juger ces êtres-là. Il s'agit pour nous de leur faire comprendre. Il s'agit pour nous d'avoir une science psychologique du mental qui puisse éventuellement altérer la vibration de leur corps astral pour qu'ils ne puissent plus raisonner à cette énergie, donc en être libérés. C'est ça de la psychologie. En attendant que nous ayons des écoles ou des universités ou des psychologues ou des psychiatres ou des éducateurs qui connaissent les lois de l'énergie, les lois de l'esprit, à ce moment-là, nous sommes obligés de traiter avec ces gens d'une façon légaliste et automatiquement nous empiétons dans le domaine de leur expérience pour le bénéfice d'une humanité ambiante, pour sauvegarder les mœurs d'une société. Et c'est le rôle de la société de se protéger. Mais c'est le rôle de l'individu de comprendre son prédicament. Donc, les gens qui sont tels que ceux que vous me décrivez, ces gens devraient, parce qu'aujourd'hui, il y a dans le monde, moi je suis un individu dans le monde qui parle, il y a des individus dans le monde qui offrent d'expliquer ce qui ne se comprend pas au niveau de leur psychologie. Donc, si ces gens ont besoin de comprendre leur nature, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que le type qui est pédophile, qu'il est heureux de faire ce qu'il fait. Il faut s'asseoir avec lui et réaliser qu'il vous dira, quelque part dans la conversation, qu'il n'est pas capable de s'empêcher, il est poussé vers ces jeunes. Donc, s'il est poussé par ces jeunes, il est poussé par des forces. S'il est poussé par des forces, il y a un contact astral entre lui et ses forces. Donc, ce contact doit être brisé, mais nous n'avons pas de psychologie. Nous n'avons pas de science psychologique du mental pour expliquer à l'homme cette condition et briser le lien entre l'astral et lui. Donc, la situation de ces êtres est une situation d'expérience, c'est une situation karmique, ça fait partie de l'évolution de leur esprit et ça fera partie un jour de l'évolution de la société humaine, de comprendre les lois occultes du psychologique humain afin de libérer finalement, une fois pour toutes, l'homme de toutes les contraintes psychologiques qu'il connaît, qu'il vit, parce qu'il ne connaît pas les lois de son esprit, ne connaît pas les lois de l'âme, ne connaît pas les lois de l'ego, ne connaît pas les lois de la mémoire. Ça fait partie de l'évolution de la nouvelle société.
Quand vous disiez tantôt, il ne peut pas s'en passer, ça peut très bien s'associer aussi aux hétérosexuels, les hommes qui disent « moi, ça me prend une femme absolument ».
C'est la même chose. Moi, je me rappelle, j'avais fait un séminaire et j'avais reçu cette dame qui pleurait, qui était absolument dépourvue et qui me disait
mon mari, ça n'a pas de sens, il vient à la maison à 11h le matin, moi je suis dans la cuisine, il baisse ses culottes, à 3h de l'après-midi, il revient à la maison, je suis dans la cuisine, il baisse ses culottes, 6-7 fois par jour. Donc lui, il était en proie à la même énergie, seulement qu'il était déjà protégé parce que dans la société hétérosexuelle, c'est normal. Et c'est peut-être bien vu dans certains quartiers que l'homme puisse faire vibrer sa femme aussi souvent dans une période aussi courte.
La chose peut être inverse aussi. Il y a des femmes qui en ont besoin très souvent. Mais alors, qu'est-ce qui signifie qu'il y a des gens qui en ont vraiment souvent besoin et d'autres qui en ont à peu près jamais besoin?
Parce que c'est la surexcitation du corps astral fait partie aussi de l'expérience. Un homme qui entre le moindrement dans une conscience supérieure, se voit automatiquement, naturellement désinvesti de cette capacité sexuelle désordonnée, automatiquement. D'ailleurs, moi, je sais, je fais des séminaires et je vois des gens qui viennent me voir quelque temps par la suite et qui me disent que leur activité sexuelle, leur appétit sexuel s'est un peu radouci, ils ont pris un peu de recul, ils ne vivent plus de la même insécurité psychologique vis-à-vis leur sexualité. Donc, c'est un ajustement du corps astral. Vous savez, le problème de l'homme sur la Terre, ce n'est pas dans le fait. Ce n'est pas seulement dans le fait qu'il ne se comprend pas. C'est dans le fait qu'il est fait de principes vibratoires. Il est fait de certaines énergies. Le mental, c'est un champ de force. Pardon. Le corps astral, c'est un champ de force. Le corps vital, c'est un champ de force. Et ces champs de force, s'ils sont le moindrement désaxés, le moindrement désordonnés dans leur vibration, imposent sur l'ego une très grande souffrance. Et il faudra un jour que la psychologie soit suffisamment avancée pour pouvoir traiter, non pas d'une façon chimique, mais d'une façon verbale, de ces extrêmes de température, de ces extrêmes d'activité, pour que l'homme puisse vivre une vie normale. Vous pensez que l'homme qui doit venir chez lui 7 fois par jour, qui doit laisser son travail pour voir sa femme dans la cuisine, vous pensez que lui, il est heureux? Évidemment, il vibre, mais il sait très bien qu'il a un problème psychologique quelque part. Mais le pire, c'est que ce n'est pas un problème psychologique, c'est un problème astral qui devient un problème psychologique. La même chose avec l'homosexuel, la même chose avec le pédophile. Le problème, il devient psychologique parce qu'il n'est pas compris. Mais au début, c'est un problème astral. C'est une surexcitation du corps astral. Et avec la surexcitation du corps astral, vous avez une télépathie inconsciente entre l'astral et l'homme, que j'appelle la pensée subjective inconsciente, et automatiquement, le cirque commence. Et regardez dans les annales de la criminologie, à tous les niveaux, dans ses aspects les plus bénins, jusque dans ses aspects les plus sensationnels, vous verrez qu'il y a toujours une activité astrale qui n'est pas sous le contrôle de l'ego. Et c'est pourquoi l'homme fait partie de ce que j'appelle l'involution, et que l'homme doit aller vers l'évolution. Là où il pourra avoir un mental, un astral, un vital et un physique qui est totalement ordonné. Donc, à ce moment-là, il entrera dans une nouvelle conscience.
Peut-être que dans tout ce qui pourrait être marginal, ce qui est le plus marginal entre tous, c'est peut-être les transsexuels. Ceux qui, dans leur essence, dans leur intimité propre, dans leur hormone, se sentent pas dans leur peau. S'ils sont nés hommes, ils se sentent femmes. S'ils sont femmes, ils se sentiraient mieux hommes. Qu'est-ce que c'est qui se passe dans ça?
Chez le transsexuel, il y a une affinité astrale pour le bien-être sexuel femelle. Autrement dit, chez le transsexuel, il y a une conscience astrale qui s'imprime sur son centre sexuel et qui lui donne le bien-être de la femme ou le bien-être de l'homme. Et où se situe le bien-être de l'homme? Il se situe dans son pénis. Où se situe le bien-être? Je vais continuer sur ce que je dis parce que c'est pas fini. Je dois expliquer à la longue. Le bien-être de l'homme vis-à-vis le corps astral se situe dans son pénis. Le bien-être de la femme vis-à-vis son corps astral se situe aussi dans sa partie sexuelle. Alors, le transsexuel, lui, est très, très sensible par le biais du corps astral à ce bien-être. Donc, il y a une connexion extrêmement vitale, extrêmement électrique entre ce centre d'énergie astrale et le centre sexuel. Donc, le transsexuel, lui, se sent constamment poussé à vivre l'autre rôle. Ça fait encore partie du débalancement du corps astral. Ça s'explique, il peut le comprendre, mais pour le neutraliser, pour neutraliser cette connexion-là, il faut qu'il change de connexion mentale. Il faut qu'il change de partenaire, de complice dans l'astral. Parce que les hommes sont beaucoup plus dominés par l'astral qu'ils le pensent. J'ai déjà expliqué, d'ailleurs, c'est la fondation de mon instruction dans le monde occidental, que la nature même de l'intelligence humaine inconsciente est régie par des intelligences astrales. Donc, l'homme inconscient n'a aucun pouvoir sur son cerveau. Son pouvoir mental est le résultat d'une communication télépathique subliminale entre son cerveau et ces intelligences-là. C'est seulement lorsque ceci est brisé que l'homme entre dans son intelligence et qu'il peut, à ce moment-là, comprendre tous les aspects de lui-même.
Donc, en fin de compte, quelle que soit la révélation sexuelle que vit l'être humain sur Terre, il se retrouve à passer au niveau supérieur dans l'androgyna, sans sexualité mâle-femelle, sans polarité yin-yang, c'est l'unité.
Sur les autres plans, en dehors de l'astral, oui, il n'y a pas de polarité. Il ne peut pas y avoir de polarité dans le plan mental, parce que le plan mental ne s'exécute pas dans la matière comme le plan astral s'exécute dans la matière. Donc, l'homme qui est dans sa conscience supramentale, qui a une conscience supramentale, ne se voit pas en tant qu'homme. Il se voit en tant qu'être dans un corps mâle ou il se voit en tant qu'être dans un corps de femme. Donc, à ce moment-là, il ne souffre pas de la polarité et il peut très bien comprendre un ou l'autre.
Bernard, il reste à peine 5 minutes dans cette deuxième heure sur la sexualité et la troisième heure sera consacrée aux interventions du public qui seront faites par écrit pendant la pause. Question de répondre très intimement à des questions très personnelles qui viennent du public en général. Je pense qu'on a réussi à faire un bon tour d'horizon sur les manifestations de la sexualité.
Vous savez, la sexualité, le phénomène humain. Le phénomène humain, c'est très vaste, très vaste. Et je demande aux gens qui m'écoutent, soit à la télévision ou de n'importe quelle façon, de toujours prendre en considération que si on ne me comprend pas à l'intérieur d'un thème, à l'intérieur d'une section de paroles expliquées, qu'on revienne à moi d'une façon ou d'une autre plus tard pour que j'explique. Parce que il est absolument impossible à l'homme de parler d'une façon permanente de la nature de l'homme, du phénomène humain, sans parler très très longtemps. Parce que l'esprit ne peut pas fonctionner comme l'intellect. L'esprit fonctionne d'une façon synthétique très rapide, tandis que l'intellect, lui, fonctionne au niveau de la mémoire. Donc, si nous parlons surtout de la sexualité, si nous commençons à ouvrir un voile ou dépasser le voile sur la sexualité, il est évident que les gens devront écouter très très longuement ce que nous devons dire, parce que même moi, j'apprends quand je parle. Donc, il est évident que l'homme doit apprendre à écouter avant de tirer des conclusions sur des mots qui souvent ne sont pas très bien formés parce qu'il y a trop de pression qui pousse derrière. Alors, nous devons être patients si nous allons bien comprendre les phénomènes extraordinairement complexes et très simples en même temps de la sexualité humaine. Il y a beaucoup à dire là-dedans.
Sans préjugés.
Il faut toujours être sans préjugés.
Sauf en ce qui concerne la destruction plutôt que la créativité.
Oui, mais les gens sont suffisamment intelligents pour réaliser la différence entre les deux.
Merci Bernard de Montréal.